Parlons d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, la crise sanitaire provoque aussi une explosion de la pauvreté. Les distributions alimentaires en hausse dans de nombreux pays européens en sont l'un des signes. En France, par exemple, une personne sur deux qui a sollicité l'aide du Secours populaire pendant le confinement était jusque-là inconnue de l'association. Et en Espagne, qui risque 12% de récession cette année, la plus terrible d'Europe, les banques alimentaires ont vu les demandes tripler ces derniers mois. Selon le quotidien El País, un Espagnol sur deux a perdu des revenus et un quart d'entre eux doit donc déduire les dépenses dans les biens de première nécessité. Que ce soit dans les grandes villes ou dans les villages, la solidarité s'organise. Reportage de notre correspondante Diane Cambon à Lozar, un petit village de 3000 habitants à un peu plus de 200 km à l'ouest de Madrid.
Le petit hall de la mairie de Lozar, un village situé à 2 heures de Madrid, connaît une activité frénétique ce matin. La principale association culturelle du coin organise sa traditionnelle collecte d'aliments avant les fêtes de Noël. Mais cette année, comme l'explique Elena, une sexagénaire dynamique à l'origine de l'initiative, les destinataires des dons ne vont pas être les pays du tiers-monde, mais les 3000 habitants de Lozar.
Normalement, on envoie tout à l'étranger, mais là, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient de gros besoins, même ici. On l'a su par le bouche à oreille, puis par Facebook. On a appris qu'une famille allait avoir un enfant et qu'il n'avait rien, même pas de berceau ou de vêtements. Et puis d'autres gens ont demandé de l'aide.
Dans la queue, Charo, une ancienne maîtresse d'école, apporte du riz, des pois chiches et des produits d'entretien.
C'est un soutien indispensable. J'ai parlé avec l'assistante sociale et elle m'a dit qu'il y avait des foyers qui avaient d'énormes besoins. Et ça ne coûte rien d'apporter un sac avec quelques produits. Il faut aider.
La crise du Covid-19 et ses répercussions économiques avec la perte massive d'emplois affectent particulièrement les familles les plus modestes qui dépendent d'un travail non déclaré et qui ne peuvent donc pas bénéficier du chômage. Sur les 3000 habitants du village, une vingtaine de familles auraient sollicité l'aide alimentaire. C'est le cas d'Anna, âgée de 45 ans, qui vit avec une pension de 390 euros mensuels.
La situation est très mauvaise. Il n'y a pas de travail. Beaucoup de bars, restaurants et boutiques ont fermé. Tu ne sais plus comment t'en sortir. J'ai mon père qui m'aide un peu et me fait parfois les courses, mais il a sa petite retraite pour lui. Avant, je travaillais dans les champs et je prenais la voiture de mon père, mais elle ne marche plus, donc je ne peux plus bouger. Heureusement, grâce au supermarché d'IA, je peux récupérer les aliments qui vont être périmés. Sinon, j'aurais même pas de quoi manger.
La crise sanitaire a fait replonger beaucoup de foyers dans la pauvreté alors qu'ils se remettaient tout juste de la crise financière de 2008. On estime que près de 15% de la population espagnole n'a pas les moyens d'allumer le chauffage cet hiver. À Lozar, c'est le cas de nombreux foyers, d'après Elena.
Ici, il y a des gens qui manquent de tout. On le sait car ce sont les gens qui se retrouvent sans électricité ou qui ne peuvent plus payer leur loyer, préfèrent ne pas payer ces factures-là et garder le peu d'argent pour payer la nourriture pour leurs enfants.
La crise du Covid affecte aussi les immigrés les plus vulnérables, comme ceux qui n'ont pas encore obtenu leurs papiers. Maribel est une Péruvienne âgée de 40 ans qui travaillait comme aide à domicile à Madrid, mais qui a perdu son emploi au noir. Avec ses deux filles et son mari, ils viennent tout juste d'arriver dans ce village et espèrent régulariser leur situation. Ici, la vie est moins chère que dans la capitale.
À Madrid, ce n'était plus possible. Le Covid a tout paralysé. On payait 450 euros pour une chambre. Ici, on a une maison de 3 étages pour 250 euros. Mais pour l'instant, on n'a pas de travail. Et c'est compliqué car on n'a pas de papier. C'est pour cela que je viens demander de l'aide à l'assistante sociale. On va voir ce qu'on peut faire. Il faut essayer de s'en sortir comme on peut. Il faut qu'on soit patient.
Selon une récente étude de l'ONG Oxfam Intermon, plus de 1 million de personnes risquent de tomber dans la pauvreté à cause des conséquences économiques du Covid si les pouvoirs publics n'agissent pas avec des aides. L'Espagne recense déjà près de 10 millions d'habitants qui vivent dans l'extrême pauvreté, soit avec un revenu de moins de 600 euros par mois.
Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les pénuries et tensions dans l'approvisionnement de médicaments se multiplient en Europe. La Croatie, déjà débordée par la deuxième vague de Covid-19, s'est retrouvée confrontée à un sérieux dilemme ces dernières semaines. Comment éviter le risque de pénurie de médicaments dans les hôpitaux publics alors que les stocks sont insuffisants et les dettes vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques gigantesques? Les explications de Simon Rico.
La crise couvait déjà depuis plusieurs mois quand les trois principaux fournisseurs de l'industrie pharmaceutique ont décidé, fin octobre, de cesser d'approvisionner les 33 établissements hospitaliers publics de Croatie. En cause, les dettes abyssales du système de santé qui s'élèvent à un peu plus d'1,5 milliard d'euros, près de 10% du budget annuel de l'État, dont 700 millions rien que pour les impayés à l'industrie pharmaceutique. Pour mettre la pression sur le gouvernement et le contraindre à payer au plus vite, les grossistes ont donc décidé de ne plus rien fournir comme médicaments. Il a fallu attendre le 11 novembre, trois semaines après l'arrêt des livraisons, pour que le Parlement finisse par voter le rééquilibrage du budget 2020, permettant le déblocage des fonds nécessaires. Mais ces tensions dans l'approvisionnement des hôpitaux publics n'ont pas manqué de susciter une vague d'inquiétude dans tout le pays, alors que la Croatie se débat avec une puissante deuxième vague de Covid-19. Les personnels soignants ont notamment alerté sur les stocks déjà très maigres dont ils disposent. À Dubrovnik, le directeur de l'hôpital rappelait par exemple que pour certains médicaments, il n'était que de 10 jours, tandis que ses collègues de Varaždin, dans le nord de la Croatie, devaient de leur côté se résoudre à des rationnements. À Zadar, sur la côte, la suspension de la chimiothérapie d'un patient atteint d'un cancer, médiatisé par un quotidien régional, a ému la population. Depuis des années, le système de soins croate doit se débrouiller avec les coupes budgétaires et un sous-effectif chronique lié au départ massif des personnels vers les pays plus riches de l'Union européenne. Cette nouvelle crise est venue rappeler aux Croates une fois de plus le peu de cas que l'État fait de leur santé.
La Suisse, qui s'était illustrée par une première vague de Covid-19 gérée plutôt sereinement, allant jusqu'à accueillir des patients des hôpitaux français débordés, eh bien ce même pays se retrouve percuté de plein fouet par un deuxième pic de contamination au coronavirus. Les hôpitaux tentent de faire face pour éviter la saturation des soins intensifs en Suisse romande. Le reportage à Genève de Jérémy Lanche.
On aurait préféré éviter ce titre-là, mais c'est les chiffres, donc c'est juste.
Le titre dont parle Jean-Luc Rony, c'est celui de champion d'Europe du nombre de malades Covid récemment attribué à Genève. Le chef de médecine interne aux hôpitaux universitaires de Genève, l'IHUG, sait que la situation évolue chaque jour et que ce titre Genève pourrait le perdre aussi vite qu'elle l'a gagné. Mais au-delà de la bataille des chiffres, il y a une réalité, celle du risque d'une saturation des soins intensifs dans toute la Suisse romande.
Je pense que c'est trop tôt pour à la fois crier victoire ou se dire ça va s'aggraver. Dans la population, la prévalence reste haute, avec plus de 30% de tests qui sont positifs chez les patients qui viennent faire un test.
La Suisse n'a pourtant pas été épargnée par la première vague, mais à aucun moment les hôpitaux n'ont paru débordés. Plusieurs ont même accueilli des patients venus de France voisine. Rien à voir avec la situation qui prévaut actuellement, avec des soignants horrifiés qui publient des appels à l'aide sur les réseaux sociaux et des autorités qui mettent en garde contre le risque de voir des opérations chirurgicales aussi critiques que des opérations de tumeurs être reportées si la tension sur les hôpitaux ne diminue pas. Bertrand Levrat est le directeur des HUG. La pression est maximale, on est monté au-delà de 630 patients, on a créé des lits supplémentaires et puis la tension elle est sur le personnel soignant, sur les médecins, pour trouver assez de personnes pour s'occuper et des patients non-Covid et des patients Covid. On a encore la capacité d'en accueillir quelques-uns, mais il est vrai que la situation est très tendue. Les HUG ont déjà héliporté une dizaine de patients vers des établissements en Suisse alémanique, globalement moins touchés par la pandémie, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Et ce n'est pas sans provoquer de vifs débats entre la Suisse romande sous tension qui demande des mesures plus strictes et la Suisse alémanique plus préoccupée par les dégâts économiques des mesures de semi-confinement. Elles ne sont d'ailleurs pas les mêmes selon les cantons. Certains, comme Genève, ont ainsi fermé tous les commerces non essentiels, quand d'autres, comme Zurich, s'en tiennent au strict respect de la distanciation sociale. Dans la gestion de crise, il est vrai qu'on a manqué d'uniformité et on manque encore aujourd'hui de leadership, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, d'un canton à l'autre, d'avoir des mesures différentes, ça n'aide pas justement au respect des règles sanitaires essentielles pour maîtriser l'épidémie. Dans le hall d'entrée des HUG, on peut apercevoir des militaires. L'armée doit en effet prêter main forte aux soignants pour traiter les malades. Elle l'avait déjà fait au printemps, mais de manière plus préventive. Les derniers chiffres montrent une baisse relative des hospitalisations en Suisse, mais une surmortalité chez les seniors bien supérieure à la première vague.
Alors qu'en France, en Angleterre et en Suisse, on assouplit le confinement, la Turquie, elle, impose depuis le week-end dernier un reconfinement partiel à ses concitoyens. Couvre-feu le week-end, fermeture des cafés et interdiction de sortie pour les plus jeunes et les plus âgés. L'objectif, comme toujours, est de ralentir les contaminations. Car en Turquie aussi, les hôpitaux sont débordés, mais pas uniquement par les cas de Covid-19. Un autre problème leur fait tirer la sonnette d'alarme, les violences physiques qu'ils subissent régulièrement de la part des familles de patients. Anne Andlauer.
Cette loi sur les violences à l'hôpital, les personnels soignants de Turquie la réclamaient depuis 15 ans. 15 ans qu'ils dénonçaient les insultes et les menaces, les coups qui entraînent parfois la mort de leurs collègues. Selon des chiffres de 2019, 40 soignants turcs en moyenne rapportent l'une ou l'autre forme de ces violences chaque jour. Les agresseurs sont très souvent des proches des malades et le service des urgences est le plus concerné. Il aura fallu qu'une épidémie submerge le système de santé, épuise les soignants, provoque la mort de dizaines d'entre eux et qu'au milieu de cette crise, sans doute aggravée par cette crise, les violences continuent de blesser et de tuer des soignants pour que les députés turcs adoptent enfin une loi. Votée au printemps, elle augmente de moitié les peines prévues en cas de blessure, menace ou insulte à l'encontre d'un soignant. Par exemple, jusqu'à 4 ans et demi de prison pour coups et blessures contre 3 ans auparavant. Elle supprime par ailleurs la possibilité d'un sursis pour les auteurs de ces violences, sursis qui était bien souvent accordé par les tribunaux. 6 mois après son entrée en vigueur, la loi ne semble pas avoir eu l'effet dissuasif espéré. La Turquie affronte actuellement la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Les files d'attente pour se faire tester s'allongent dans les hôpitaux, les services sont débordés et les agressions de soignants se poursuivent. Mi-novembre, à Ankara, c'est toute une famille qui s'est attaquée au service de soins intensifs où un enfant était soigné. L'équipe médicale a dû se barricader derrière la porte du service pour éviter les coups. L'un des agresseurs a été incarcéré. En septembre, selon l'Union des médecins turcs, près de 900 soignants avaient renoncé à leur métier depuis le début de l'épidémie. Fin octobre, le ministère de la Santé leur a interdit de démissionner jusqu'à la fin de l'épidémie.
C'est l'histoire d'une disparition qui bouleverse l'une des régions côtières les plus à l'ouest de l'Irlande, celle de Fungi. Fungi, c'est le nom donné à un dauphin qui nageait depuis près de 40 ans au large de la petite ville de Dingle, dans le sud-ouest de l'Irlande. Véritable mascotte dans la région, le dauphin a disparu depuis un mois, sans doute mort de vieillesse, et c'est toute la péninsule qui est bouleversée. Emeline Vin.
Fungi et les nageurs, Fungi et les pêcheurs, Fungi et les surfeurs. Le grand dauphin au nez court, plus de 2 mètres de long, était un visiteur quotidien pour les 2000 habitants de Dingle. David Tony a assisté à l'une de ses premières apparitions en 1983.
À l'époque, il y avait cet événement à Dingle, la bénédiction de la mer. Tous les bateaux viennent dans la baie, se font bénir par le prêtre et puis emmènent les bateaux faire un tour en mer. Cette année-là, j'avais 4 ou 5 ans. D'un coup, quelque chose s'est mis à sauter le long du bateau. C'était ma première rencontre avec lui.
Fungi était même une tradition familiale.
On l'a vu en faisant du bateau, du kayak. Ma fille aînée, elle a 11 ans, elle a réussi à le voir tous les ans. Il était très sociable, très joueur, surtout quand il était plus jeune. Il sautait le long du bateau. Il était vraiment important pour nous ici à Dingle.
Si important que la mairie a même érigé une statue en bronze devant l'office du tourisme. Le dauphin n'a jamais quitté la baie plus de 2 jours. Beaucoup d'habitants aujourd'hui se font à l'idée que Fungi ne reviendra pas. Kevin Flannery, directeur de l'aquarium de Dingle.
Il n'a pas bougé depuis 37 ans. Bon, il y a eu une dauphine qui est restée une bonne année, mais elle n'aimait pas les touristes et elle l'a quitté. Peut-être qu'elle est revenue le chercher, mais les dauphins ne sont pas éternels. Leur espérance de vie est de 45-50 ans. Il a passé 37 ans avec nous et c'était déjà un jeune adulte quand il est arrivé. Le plus probable, c'est qu'il soit mort, tout simplement.
Aucun corps de dauphin ne s'est échoué sur les côtes. Fungi aurait disparu aussi mystérieusement qu'il est arrivé il y a 37 ans. Mais depuis 1983, il a beaucoup fait pour la péninsule, estime Caroline Boland, responsable du développement touristique.
Il y a 37 ans, on ne savait pas quoi faire de lui. Le tourisme n'existait pas. Mais les pêcheurs se sont mis à proposer
proposé des écotours en bateau. Fungi a amené cette touche de magie à notre magnifique région. Fungi a fait venir des tas de gens qui en ont profité pour découvrir tout ce qu'il y avait à faire ici.
Chaque année, Normal Dingle accueille entre 250 et 500 000 touristes qui ont permis de transformer l'industrie de la pêche en déclin. Kevin Flannery retient de Fungi sa contribution à éveiller une conscience écologique.
Les pêcheurs se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de labourer la mer, qu'ils peuvent simplement s'en servir pour gagner leur vie, avec une nouvelle industrie, respectueuse de l'environnement. Ce que Fungi a fait, grâce à lui, les gosses réalisent que la mer, c'est magnifique, qu'elle est peuplée de tous ces animaux magnifiques, heureux et intelligents, et qu'il faut la protéger.
Ce n'est pas Fungi, mais les touristes de Dingle pourront toujours partir en mer à la rencontre des phoques, des marsouins, des baleines à bosse de la péninsule et pourquoi pas des nouveaux grands dauphins.
C'est l'heure musique et c'est avec vous Vincent Teval. Bonjour.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Vous nous embarquez aujourd'hui sur les sonorités de jazz inspirées de musique traditionnelle albanaise avec la chanteuse Elina Douni.
Avec son nouvel album Lost Ships, la chanteuse helvético-albanaise Elina Douni convoque à nouveau le thème de l'exil, qui était le fil rouge de son précédent disque paru voilà 2 ans, qui associait composition originale, reprise de standards et musique traditionnelle albanaise et méditerranéenne, un mélange de saveurs, de langues et d'influences déjà à l'œuvre sur les 4 albums que la chanteuse a enregistrés avec son quartet de jazz entre 2008 et 2015. C'est le reflet d'un parcours. Elina Douni est née en Albanie, mais vit en Suisse depuis la chute du régime communiste, mais aussi d'une curiosité et d'une ouverture aux autres. Pour Lost Ships, la chanteuse s'est associée au guitariste anglais Rob Luft, un dialogue entre voix et guitare particulièrement saisissant sur ce morceau traditionnel albanais.
C'était Elina Douni sur RFI, Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez à toute heure et partout sur notre site internet rfi.fr, à la rubrique podcast ou sur votre plateforme d'écoute. Bon week-end, à lundi.